On continue notre étude sur la nouvelle naissance. On va regarder une couple de semaines en ligne encore sur le sujet. Le Seigneur veut nous révéler un petit peu plus en profondeur comment que ça marche, la nouvelle naissance. Souvent, on a déjà des idées préconçues, puis on se base sur un verset, mais on oublie qu'il y a d'autres versets qui parlent de la même affaire. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, que dans la Bible, quand tu as un verset, ce n'est pas toute la vérité. C'est une partie de la vérité. La vérité, c'est quand tu assembles toutes les puzzles ensemble, tous les versets qui parlent d'un sujet, là que tu les mets ensemble, puis tu fais une analyse complète. Parce qu'on peut pas affirmer quelque chose sur un verset si ça contredit un autre verset quand on parle du même sujet. C'est pour ça qu'il faut, quand on lit, il faut aller un peu plus en profondeur. Il faut méditer, oui, ça c'est un peu plus en profondeur, mais étudier, sonder les Écritures, approfondir, faire une analyse là en allant chercher tous les versets, puis là, on regarde une vue d'ensemble du sujet. Puis là, ça nous fait comprendre des fois, c'est sûr qu'on va comprendre mieux, mais on va aussi pouvoir expliquer les choses d'une manière qui est biblique. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui partent juste avec un verset. Puis comme un exemple, il y a des religions qui ont baptisé les enfants pendant les siècles, puis ils disent au monde qu'ils sont nés de nouveau parce qu'ils ont été baptisés à la naissance. Puis que là, ils sont sauvés, fait que là, c'est plus grave, là, ils sont comme rassurés parce qu'ils ont baptisé l'enfant. Mais c'est pas biblique. Si tu prends qu'un verset, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, puis là, tu parles, tu dis, mais là, je l'ai baptisé, donc il est sauvé, c'est pas toute la vérité, c'est même pas une partie de la vérité, c'est juste un sens sur une idée. Faut pas que tu oublies aussi que l'autre verset à côté qui dit « celui qui croira », donc il fallait que tu croies. Puis après ça, tu vas voir qu'il y a d'autres versets qui s'ajoutent, tu vas voir que c'est bien plus profond que juste une croyance intellectuelle pour naître de nouveau. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Aujourd'hui, on va voir quelle est l'action de Dieu pour la nouvelle naissance. Parce que quand on parle de nouvelle naissance, souvent les humains, j'en ai parlé un peu la semaine passée, on a des religions, des tonnes de religions dans ce monde-là. Des gens qui essayent d'établir leur propre justice, qui essayent d'établir, de gagner leur ciel ou de se rapprocher de Dieu par leur religion. Puis c'est tout, ça sert à rien tout cela. On en a parlé un peu la semaine passée, mais on va en parler un petit peu maintenant aujourd'hui. On va voir que la nouvelle naissance, c'est une action surnaturelle de Dieu dans l'homme. On va voir que c'est pas quelque chose que l'homme fait. C'est quelque chose que Dieu fait. C'est un miracle, la nouvelle naissance. Parce qu'il fallait que Dieu prenne quelqu'un de pécheur, souillé, tout sale, dans ses péchés, perdu, aveuglé, enchaîné par les ténèbres, rebelle à Dieu, ennemi de Dieu. Fallait qu'il prenne quelqu'un comme ça, puis pas juste y pardonner, fallait qu'il change sa vie complètement, qu'il régénère, comme tu prends une vieille auto en métal, puis qui est toute rouillée, puis que là, tu fais un sandblast dessus, là, ça c'est des machines à jet de sable, là, tu sables la patente au complet pour qu'ils soient au métal, puis leur peinturer, puis le remettre à neuf. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. On va le voir dans certains passages tantôt. C'est une intervention essentielle pour qu'on soit sur le chemin du salut. Puis ça, on pouvait pas par nous-mêmes se le faire soi-même. Il fallait que ce soit Dieu qui fasse cette intervention-là pour nous mettre dans le chemin du salut. C'est quelque chose qui se passe, ça vient de Dieu. Puis c'est ça qu'on va regarder, ces points-là, pour s'apercevoir, on est-tu né de nouveau? On a-tu vécu l'expérience d'être né de nouveau? Parce que c'est quelque chose qui se vit. C'est pas juste une phrase dans la Bible, puis que ça sera, oui, je l'ai lu, je sais que c'est là, je sais que ça existe. Puis tu peux même dire, oh, je sais même qu'il y a d'autres personnes, j'en connais un, Joe, lui, il a de l'air à avoir une vie changée. Mais là, c'est pas ça, c'est, est-ce que moi, je l'ai expérimenté, ce changement radical-là dans ma vie, produit par Dieu lui-même. Ça se vit, c'est quelque chose qui se vit, puis qu'on doit vivre, que tout le monde doit vivre. On l'a vu l'autre jour dans un message que Dieu voulait sauver tout le monde. Ça veut dire que Dieu veut faire naître de nouveau tout le monde. Puis il faut que tout le monde naisse de nouveau pour entrer dans le royaume. C'est obligatoire, c'est impératif. On ne doit pas passer à côté de ça. Si on néglige ça, on ne rentre pas. C'est ça que la Bible nous enseigne. Dans Galates 6, 15, je vous l'ai lu la semaine passée, j'ai dit, c'est rien d'être circoncis ou d'être incirconcis. Même si tu pratiqueras la religion juive puis tu te feras circoncis, ça sert à rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est un miracle qui vient de Dieu. Un changement radical opéré par Dieu lui-même. On l'a vu, on en parle souvent, puis j'aime ça le répéter. Notre nature humaine déchue nous rend incapables de nous sauver nous-mêmes. Faut arrêter de penser que c'est parce que je suis bon que je suis rendu là. Parce que je le mérite. J'ai fait plein de bonnes actions. Je sens que je le mérite d'être que Dieu me change. Je sens que j'ai assez fait dans ma vie pour le mériter. Ça n'a pas rapport du tout à nous. On est incapable de naître de nouveau par nous-mêmes. Dans Isaïe 64, le verset 6, ça nous dit, « Nous sommes tous comme des impurs. » Tous, sans exception, sauf Jésus, la seule exception. On est tous vus aux yeux de Dieu, au regard de Dieu, des impurs. Impurs, c'est pas pur. Pas pur, c'est que t'es pas net. T'es sale. On est tous des sales devant Dieu. Sali par quoi? Sali par nos péchés. Sali par nos pensées, nos paroles, nos agissements. Puis on a hérité de cette nature-là qui est déjà déchue, puis en plus, on en fait régulièrement, tous les jours, des impuretés. La Bible, elle nous dit qu'on est tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Fait que si t'es comme un vêtement souillé, ta justice est comme un vêtement sale. Ça veut dire que tu essaies de pratiquer une religion pour dire « Je mérite mon ciel. » Ça sert à rien. Tu es un gars tout sale. Tu peux pas mériter ton ciel. Tu peux pas gagner ton ciel. Dieu n'y arrivera jamais à personne pour dire okay, « Je te donne le ciel parce que t'es super. T'es parfait comme je le voulais. » Ça n'a pas rapport du tout à nos performances. On est tous perdus puis impossible pour l'homme de se sauver par lui-même. Il dit, nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Fait qu'imaginez-vous, là, tous les péchés que vous avez faits dans votre vie, là, mais tout ça, là, peut-être vous avez ri quand vous les faisiez, peut-être vous aviez du fun, peut-être vous aviez du plaisir de faire tous vos péchés, tout ça, là, vous emmenait dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Puis c'était impossible de vous en sortir par vous-même, par nous-mêmes, tout seul, impossible. Des gens cherchent un moyen de changer eux-mêmes, mais Jésus a dit que cela est impossible. Quand un gars pratique une religion, c'est parce qu'il essaie de gagner quelque chose, là, il essaie d'atteindre quelque chose, là. Soit il essaie d'être purifié, il essaie d'être pardonné, il essaie de gagner le ciel. Il y en a qui se font exploser pensant à gagner le ciel. Ils pensent qu'en faisant des affaires, ça va leur être donné comme un cadeau par Dieu, parce que Dieu sera content. Dans Marc 10, 26 et 27, ça dit, quand Jésus est en train d'expliquer ça, qui va être sauvé, il venait de dire que c'est impossible pour ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le ciel. Si tu as un attachement pour l'argent, là, tu ne pourras pas rentrer. Si tu as un attachement pour les autres péchés, c'est la même affaire, tu ne pourras pas rentrer. C'est ça que Jésus dit. Il dit, c'est plus facile pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume. Il n'a pas dit c'est impossible aux riches, il a dit c'est impossible à ceux qui se confient dans les richesses. C'est de mettre ta confiance dans quelque chose d'autre que Jésus. C'est ça qui est le problème. Là, on met notre confiance dans notre religion, on pense que notre religion est bonne. Ça sert à rien, une religion, ça sauve pas personne. S'il y a juste Jésus qui peut nous sauver. Dans ce passage-là, il est en train de dire, là, les disciples ils étaient étonnés, puis ils se disent les uns les autres, qui peut être sauvé? Parce que il y a bien du monde qui veulent l'être sauvé, mais si c'est impossible à ceux qui se confient dans les richesses, puis ça, sans compter les autres péchés, Jésus, il a regardé, puis il a dit, c'est impossible aux hommes d'être sauvés. Cherchez pas une manière d'être sauvé. Jésus résume ça, pensez pas que votre religion ou votre mode de vie ou vos habitudes ou vos bonnes œuvres ou peu importe ce qu'on a comme qu'on pense que ça va, je ramasse ma confiance dans mes bonnes actions, puis là j'en fais tous les jours comme ma BA, faut qu'elle soit faite, tous les jours, puis là je vais dire, là je suis rendu, il faut que je fasse 3 BA, par jour, puis là tu les accumules, puis tu penses que tu vas avoir plus de bonnes actions que de mauvaises, puis que là que ça va peser plus sur le bon bord, puis tu penses, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent c'est ça, mais c'est impossible aux hommes d'être sauvés, impossible, fallait un miracle qui vient de quelqu'un d'autre qui fait pas partie de ce monde pour l'accomplir, ce miracle-là. Fallait que Dieu parte du ciel, puis qu'il vienne sur la terre, puis accomplisse ce qui était nécessaire pour qu'on puisse avoir une possibilité d'être sauvé. C'est grâce à l'œuvre de Jésus qu'on peut être sauvé, et non par nos mérites, parce qu'on est bon, parce qu'on je m'appelle Daniel Poulin, wow! Dieu doit être content de me voir parce que je m'appelle. Non, ça sert à rien. On est tous sales, puis peu importe ton nom, ça n'a aucune importance devant Dieu. Il dit, c'est impossible aux hommes d'être sauvés, mais non à Dieu. C'est possible à Dieu. Il dit, car tout est possible à Dieu. Même de sauver des personnes impossibles à sauver, Dieu est capable de le faire. Le plan pour sauver ce qui est impossible d'être sauvé. Il fallait qu'il le fasse. Tout vient de lui. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous sauver par Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Dans Hébreux 7, 25, ça nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est Jésus. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il y a juste Jésus qui peut nous sauver parfaitement en passant par lui pour atteindre Dieu. Merci Seigneur. C'est impossible aux hommes, mais c'était pas impossible pour Dieu. Puis Dieu l'a fait ce qui était nécessaire à travers Jésus. Puis là, on peut s'approcher avec assurance en allant à Jésus pour recevoir le salut. Il peut sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Vous manquez d'assurance dans votre salut, mais il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Allez à Jésus pour recevoir le salut. La possibilité de recevoir le nouveau départ par le Saint-Esprit de Dieu, ben c'est ça, là, on parle de la nouvelle naissance, naître de nouveau, c'est un nouveau départ. De resetter notre vie de péché, puis d'avoir l'occasion de repartir à zéro. Il dit, la possibilité de recevoir ce nouveau départ-là par le Saint-Esprit, là, c'est la porte ouverte grâce à l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aimait qui a accompli ce qui était nécessaire pour qu'on puisse avoir ce nouveau départ-là. C'est une preuve de l'amour de Dieu. On était tous des pécheurs, des ennemis de Dieu. On blasphème à Dieu, on déshonore à Dieu. Puis Dieu, dans son amour, il nous aimait, là. Imaginez pas que Dieu nous aime pas. Dieu nous aime malgré qu'on le mérite pas. Puis dans son amour, il dit, je vais faire quelque chose qu'il y a une partie de lui, là, comme Jésus est sorti de lui. Parce que Jésus était Dieu aussi. Il est sorti de lui, puis il a décidé de venir en forme humaine, puis venir accomplir la mission qui était nécessaire pour donner à l'ensemble des humains l'occasion de pouvoir naître de nouveau, en payant pour que les gens soient pardonnés. Puis plus que ça, pour que les gens soient restaurés. Vous allez voir ça tantôt. Dans le verset, dans Actes 5, 31 et 32, ça dit, « Dieu a élevé par sa droite, il a élevé Jésus, Dieu a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Ça, là, c'est fort. Vous allez voir qu'il y a deux affaires qu'on reçoit en Jésus. On reçoit la repentance, puis on reçoit le pardon des péchés à cause de son œuvre. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Trois affaires que Dieu nous donne. Il nous donne de pouvoir se repentir, il nous donne le pardon des péchés, puis il nous donne le Saint-Esprit. Ça vient tout de Dieu. Cette possibilité-là de recevoir ces beaux cadeaux-là. Sans cela, on n'aurait pas pu être sauvé. Dieu, ça nous dit là-dedans, Dieu, il a élevé par sa droite. Sa droite, quand on parle de la droite de quelqu'un, là, c'est par sa puissance. Dieu est tout-puissant. Par sa toute-puissance, il a élevé Jésus comme prince et sauveur pour donner à Israël... À l'Israël de Dieu, c'est pas ça, l'Israël de Dieu, c'est les Juifs et les non-Juifs. Tous ceux qui vont être sauvés, on est devenu l'Israël de Dieu. Pour donner à Israël la repentance, le pardon des péchés, puis il dit, nous sommes témoins de ces choses-là, de même aussi que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Voyez-vous? Faut que tu reçoives de Dieu la possibilité, pour que tu reçoives de Dieu la possibilité de te repentir et d'être pardonné et de recevoir le Saint-Esprit parce que tu veux lui obéir, il fallait que Jésus accomplisse ce qui était nécessaire. Il fallait que Jésus soit élevé. Jésus dit, « Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est quand que Jésus a été élevé? Sur la croix. Il ne touchait pas à terre. C'est ça que ça voulait dire. Ils l'ont élevé en le clouant sur le bois, sur la croix. Tant qu'il était cloué là, c'est par la puissance de Dieu que Jésus était là. Souvent, on pense, oui, c'est le diable qui a utilisé les humains. Là, on pense que c'est le diable et les humains. Oui, c'est vrai dans un sens, mais c'est l'amour de Dieu qui a fait ça. Que Jésus se ramasse à être élevé. Il dit, c'est par la puissance de Dieu qu'il a été élevé. Ça dit ça, là. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Dieu l'a élevé par sa droite, son bras puissant. C'est dans le plan de Dieu qu'il fallait qu'il se rende là. Puis le diable n'aurait pas pu empêcher ça, même si on sait que Dieu a utilisé le diable pour arriver à cela. C'est dans le plan de Dieu, puis c'est parce que Dieu a mis son amour là-dedans aussi. C'est par amour qu'il a envoyé son fils mourir sur la croix. C'est hot. Merci Seigneur. Ce ne sera pas de son amour, puis ce ne sera pas de sa puissance. Jésus n'aurait pas été mort sur la croix. Il aurait arrivé d'autres choses. Le diable aurait peut-être déjoué le plan de Dieu, puis ça ne l'aurait pas accompli comme c'était écrit d'avance dans la parole. Mais pour que ça s'accomplisse, il fallait que Dieu guide les choses, quand c'était l'heure des ténèbres, l'heure donnée par Dieu. C'est Dieu qui a décidé que ça soit là, c'était le temps, puis là, ça s'est accompli. Mais c'est Dieu qui est en arrière de tout cela, pour nous montrer qu'il contrôle toutes choses, puis nous montrer comment est-ce qu'il nous aime. Nous pouvons devenir une nouvelle créature que par la régénération produite par Dieu. On va comprendre là-dedans là, que la nouvelle naissance, c'est bien plus que juste être baptisé d'eau. Ça n'a pas rapport, le baptême d'eau. Oui, c'est un des points d'obéissance, le baptême d'eau. Mais c'est pas le baptême d'eau qui nous a sauvés. On a vu la semaine passée, c'est pas parce que tu crois que tu es sauvé. Juste croire. Les démons aussi croient, puis ça sert à rien. C'est pas juste de te faire baptiser d'eau que tu es né de nouveau. Ça n'a pas rapport. Tu peux avoir été baptisé 50 fois puis pas être né de nouveau. C'est pas aussi parce que tu es assis dans une église que tu es baptisé d'eau, que tu es né de nouveau. Tu peux être assis dans une église depuis ta naissance parce que tes parents étaient là, puis tes arrière-grands-parents étaient là, puis c'était une histoire de tradition, puis pas avoir été né de nouveau. Mais l'important, c'est faut que tu naisses de nouveau. C'est ça qu'il faut regarder, puis ça vient de Dieu. Sinon, tu es encore un vêtement flétri, tu es encore dans tes souilleux, puis tu n'es pas sauvé. Faut le dire, carré, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. On va voir que Dieu utilise trois moyens puissants pour nous pardonner, pour nous transformer, pour qu'on puisse naître de nouveau. Sans l'intervention de ces trois moyens puissants qui viennent de Dieu, si t'en manques une là-dedans, t'es pas encore né de nouveau. Faut que tu ailles vraiment passer à travers ces trois moyens puissants donnés par Dieu. Pour être vraiment un né de nouveau. Fait que si tu veux le savoir si t'es un né de nouveau, mais il faut que tu aies dit oui à tous les trois points. Premièrement, quel est le moyen puissant que Dieu a donné pour qu'on puisse naître de nouveau?
Le nom de Jésus.
Mais là, j'en ai parlé depuis le début, c'est sûr. Puis ça, c'est ce qu'on doit toujours se rappeler. L'œuvre accomplie de Jésus sur la croix. Il dit l'œuvre de Jésus sur la terre, là on parle de son sang qui a été versé, de sa mort, puis de sa résurrection, nous permet d'être pardonnés et d'entrer dans la régénération. Ça, c'est le point 1. Ce que Jésus a accompli, voilà 2000 ans, si tu crois pas à cela, là, mais tu passes à côté de la nouvelle naissance. Si tu sais pas que Jésus est venu voilà 2000 ans, puis qui est mort sur la croix, puis qui a versé son sang pour le rachat, parce que c'est le sang de la nouvelle alliance. On a fait la Sainte-Sainte tantôt, puis le vin, le jus de raisin, ça représente le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus, s'il n'aurait pas versé son sang, tu n'aurais pas pu être né de nouveau. Si tu crois pas à cela, tu peux pas naître de nouveau. Faut vraiment que tu réalises ce que Jésus a fait en venant sur la terre. Il était plus que juste un prophète, là. C'était le Fils de Dieu. C'était Dieu lui-même, fait homme, qui a donné sa vie en rançon pour qu'on nous racheter. Il a payé ce que ça coûtait. Il a accepté de subir la mort à notre place. C'est notre substitut. Fait qu'en mourant sur la croix, il a versé son sang, puis il n'a pas rien que mort sur la croix puis versé son sang. Il est ressuscité aussi le troisième jour. Si tu crois pas à ça, tu passes à côté du plan de Dieu. Tu crois pas au Jésus de la Bible, parce que le Jésus de la Bible, lui, il a aussi ressuscité. Puis c'est important ce qu'il a fait après. Mais regardez bien le passage dans 1 Pierre 1-3. Ça nous dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde... » C'est parce que Dieu nous aime, là, puis il est prêt à... Tu sais, il a tellement pitié de nous, là, qu'il a tout accompli ce qu'il fallait. Il dit, selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Voyez-vous, dans ce passage-là, Dieu est en train de nous dire, il nous a régénérés. Il a permis que les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, aient été régénérés pour une espérance vivante. Savoir tout ce qu'on sait là, à propos qu'on s'en va dans la vie éternelle, on va vivre l'histoire sans fin avec Jésus, etc. Mais tout ça, c'est permis à cause de la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est le premier des trois éléments que tu dois savoir, que tu dois prendre conscience, puis que tu dois saisir par la foi. Jésus est mort sur le bois, il a versé son sang, il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il a fait après? après qu'il est ressuscité. La Bible nous le dit dans Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu, à cause de son sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption, c'est un rachat. Jésus, fallait qu'il ressuscite pour aller porter son sang dans le lieu très saint. C'est où ça? C'est dans la présence de Dieu, sur l'autel dans le ciel. C'est le sang de Jésus qui est là, qui nous permet d'avoir une rédemption éternelle, qui nous permet le rachat, d'être racheté. Parce qu'il faut pas oublier qu'à cause de nos péchés, là, on était tous comme pônés. N'as-tu que ça a pas, c'est quoi être pôné? Quand tu parles d'un pawn shop. Un pawn shop, là, c'est que tu amènes tes objets, puis ils sont pônés en anglais. Là. Ils sont un prêt sur gage. C'est que ton bien t'appartient plus temporairement tant que tu n'as pas repayé. Mais notre vie, à cause de nos péchés, on était comme des mains du diable. Il fallait que quelqu'un paye pour nous reprendre. Il paye pour nous racheter. C'est ça que Jésus a fait. Il a payé ce que ça coûtait pour avoir le droit pour nous donner l'occasion de sortir des griffes du diable. On n'est plus pawné à cause de Jésus. On était racheté. La dette de nos péchés a été payée par Jésus. C'est son sang qui était versé, puis ça nous donne cette grâce-là. Puis, ça nous dit dans ce verset d'un Pierre 1-3 que selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance nouvelle. Savez-vous que ça veut dire dans la parole de Dieu d'être régénéré? Renouvelé. C'est produire de nouveau, être né de nouveau. Renouveler, faire naître. Fait que, on était des vivants, mais morts spirituellement. Mais en mourant sur la croix, il nous a permis de renaître, d'être renouvelé, de naître de nouveau, produire de nouveau, comme si on était mort, on était à scrap, mais le fait qu'il ait payé, là, on nous a permis de recommencer, de renaître, d'être reconstruit. Ça nous dit, la métaphore du dictionnaire biblique, là, ça nous explique avoir son esprit changé par une nouvelle vie. C'est comme si Dieu, là, il te pardonne, mais il te donne de quoi en dedans de toi qui change ton esprit pour être changé. Parce que tu n'aurais pas pu, avec tes idées pervers d'avant, de marcher autrement que tu étais avant. T'apprenais d'autres pensées, il fallait que tes pensées changent. Mais il, en naissant de nouveau, il te permet de pouvoir recevoir ce qui va te permettre de penser différemment. Ça, c'est dans le Saint-Esprit. Il te donne de nouvelles pensées. Il change ton esprit. Ça dit avoir son esprit changé par une nouvelle vie en conformité avec la volonté de Dieu. Fait que cette nouvelle vie-là, c'est une vie à vouloir obéir à Dieu. Avant, on voulait pas obéir à Dieu. Ou on dit on aimerait ça, mais on n'était pas capable. On n'avait pas la force, on n'avait même pas la volonté d'obéir. On le savait qu'on était pécheurs, mais chaque fois qu'il y avait des péchés qui se présentaient devant nous autres, on vivait là-dedans, puis on n'était pas capable de s'en sortir soi-même. On était perdu. Il fallait qu'il te pardonne, mais qu'il te renouvelle aussi. Il te donne un changement dans ta pensée qui fait que tu penses différemment, qui fait que tu vas vouloir obéir à la volonté de Dieu. Puis ça, là, ça, c'est Dieu qui fait ça. Il n'y a pas une religion sur la terre qui peut t'amener à cela. C'est le travail de Dieu. Si aujourd'hui, là, on pense, je veux te servir, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je veux te suivre. Je veux t'obéir. Aide-moi à combattre. Puis là, tu combats. C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est qu'est-ce qui t'a mis en toi qui te permet d'être rendu là. Parce que tu n'auras pas été capable d'être comme ça par toi-même. Merci, Seigneur. Ça, c'est le premier élément des trois choses qu'il faut qu'on ait dans notre vie pour être vraiment sûr qu'on est né de nouveau. Si on boxe un de ces trois points-là qu'on va voir, là, on n'est pas encore né de nouveau. Le deuxième point, le deuxième élément que Dieu se sert pour faire naître de nouveau, puis qu'on peut pas passer à côté de cela, c'est par la parole de Dieu donnée par Jésus-Christ, reçue par la foi. C'est par la foi qu'on a reçu les paroles qui nous ont été expliquées. Soit que quelqu'un qui nous a parlé des versets de la Bible, soit qu'on a lu la Bible nous autres mêmes, puis on a commencé à comprendre des affaires. Puis là, on peut rester à l'étape de « Ah, oh, il parle bien, c'est un bon mode de vie. » Tu peux rester à ce niveau-là, mais pour que tu puisses passer au niveau « J'y crois, je le veux, je le saisis par la foi, ce qui est écrit là, je veux le vivre. » Quand tu es rendu là, c'est un reçu par la foi. C'est ça qui te permet de... Il dit, n'est-ce pas par la... Est-ce par la loi que j'ai reçu l'Esprit ou c'est par la prédication de la croix? Mais c'est par la prédication de la croix qu'on reçoit l'Esprit. C'est quand tu entends parler des choses de Dieu, puis là, tu es ouvert par la foi, tu acceptes les paroles de Dieu, les promesses. Tu es ouvert, tu les saisis par la foi. Ça, c'est un élément qui nous permet de naître de nouveau. Dieu se sert de cela, autant qu'il sert de ce que Jésus a accompli, voilà 2000 ans, en mourant sur la croix. Il sert de son sacrifice, c'est un élément important. Mais le deuxième élément important, il fallait que tu saisisses par la foi ce qui t'était annoncé. Quand le gars t'a témoigné, là, ou la fille, le chrétien, ou peu importe comment tu n'as entendu parler de Jésus, t'as entendu parler de la parole de Dieu, il y a un moment donné dans ta vie, tu dis, wow, là, ça a du bon sens, cette affaire-là. J'y crois, cela. Je sais que c'est ça. C'est écrit là, dans ce livre-là, là, c'est, il y a quelque chose qui s'allume en nous, mais c'est cette foi-là qui fait que ça va vous permettre de naître de nouveau.
Amen.
C'est ce que ça nous dit. Dans 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, tout à l'heure j'ai dit que le sang de Jésus nous a permis d'être régénérés. Hein? Le sang de Jésus nous a permis de naître de nouveau, d'être né de nouveau, d'être renouvelé, faire renaître. Mais il dit là, il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voyez-vous, d'où vient la régénération? C'est un changement, c'est une nouvelle vie-là. Ça vient de la puissance de la parole de Dieu. Quand ça t'a été annoncé, là, oui, il y avait quelqu'un qui parlait. C'est un homme qui me l'a dit. Oui, c'est un homme qui l'a écrit, la Bible. Peut-être des hommes qui l'ont écrit, mais ce qu'il y a d'écrit dedans, ça vient de Dieu. Puis c'est une parole qui est vivante, puis c'est une parole qui est puissante. Ce qui sort de la bouche de Dieu, là, il est écrit noir sur blanc. Puis si tu le lis, ou s'il y a quelqu'un qui t'en parle, mais cette parole-là, là, c'est plus que juste des mots. C'est la puissance de Dieu qui rentre dans ta vie. Puis là, si tu mets ta foi là-dedans, ta vie est régénérée. Voyez-vous comment c'est puissant? Comment est-ce qu'il faut pas négliger l'idée de dire, « Ah, oh, mais je vais mettre des pamphlets ici, puis là, puis des boîtes à mal, puis partout, pour que le monde puisse lire la Bible. » Parce que c'est pas tout le monde qui en a une sous la main. Mais c'est important de laisser la parole de Dieu à quelque part, parce que cette parole-là peut sauver une vie. C'est un élément de la puissance de Dieu, ce que Dieu nous a permis qu'on ait dans nos mains. Ça nous dit, on est régénéré par la semence corruptible. Non, par une semence corruptible, par une semence incorruptible. Puis le mot semence qu'il y a là, c'est une spore. Connaissez-vous ça, des spores? C'est des semences qui sont dans les fleurs, comme là. Ça sort, là. Ça vole au vent. Puis à un moment donné, cette semence-là tombe à terre, puis il sort une autre fleur. Mais cette semence-là qui vole au vent, là, c'est la parole de Dieu. Mais la spore de Dieu, une semence de Dieu qui vole au vent parce que vous avez ouvert la bouche pour l'annoncer. T'en parles à la radio, là. Puis à la radio, les ondes sont là, le gars, il écoute la radio, puis il entend un prédicateur en train de prêcher la parole. Les spores de Dieu sortent direct de la radio, là. Puis là, ça peut sauver des vies. C'est la semence incorruptible de Dieu. La puissance de Dieu agit directement dans cette parole-là, puis elle peut sauver sa vie. Regardez bien, c'est un autre verset qui nous parle de cela. Dans Hébreux 4:12, il dit « La parole de Dieu là est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'un épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre dans l'âme puis dans l'esprit. Elle rentre. Quand elle rentre ici, là, elle rentre. Là. Faut pas penser là que quand j'avais parlé de la Bible à quelqu'un, même si le gars il dit non, 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 mais il t'a écouté, il est rentré ici. Il dit non à l'extérieur, mais en dedans, ça rentre. La semence de Dieu, là, est vivante. C'est plus que juste une semence qui part au vent puis qui pourrait finir dans l'eau qui fait pas son effet. Dieu dit, il y a pas une parole qui sort de ma bouche, qui s'en retourne à Dieu sans avoir fait son effet. Quand la parole elle a rentré ici, là, elle rentre dans l'âme, dans ses émotions, puis dans son esprit. La personne est affectée, puis le Saint-Esprit sert de ça pour convaincre. Faut pas penser que Dieu les a pas appelés, que Dieu travaille pas. Il travaille tout le temps, parce qu'on sert, on prie, l'Esprit de Dieu agit, quand on rouvre la bouche, parler de la parole, ça pénètre leurs oreilles, ça pénètre automatiquement leur cœur et leurs pensées. Puis ça nous dit... Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, mais elle est pénétrante jusque dans l'âme et l'esprit, jointure et moelle, arrente. Parce que c'est une parole vivante. Puis ça, c'est le deuxième élément que Dieu se sert pour faire naître quelqu'un de nouveau. Comme j'ai dit tantôt, on était régénéré par la semence incorruptible. C'est le deuxième élément qui est important que ça l'ait rentré dans notre cœur, qu'on l'ait saisi par la foi. Ça te permet d'être régénéré, de repartir à zéro. Tout ce que j'ai dit tantôt, produire de nouveau, être né de nouveau, être renouvelé ou faire renaître, c'est la semence de la parole de Dieu qui a rentré. Avec dans cela, on entend bien sûr qu'on va entendre que le sacrifice de Jésus qui est mort pardonner tes péchés, tu vas l'entendre en écoutant la parole, puis c'est ça qui t'amène à être sauvé, à être régénéré, à naître de nouveau. Troisième élément que Dieu se sert pour pouvoir nous faire naître de nouveau, c'est par la réception puis la transformation que le Saint-Esprit opère en nous. C'est encore un autre élément qui vient de Dieu. Le sacrifice de Jésus à la croix, son sang qui a été versé, la parole de Dieu qui nous a annoncé, puis le Saint-Esprit qui est là, qui travaille le cœur, puis quand on est ouvert par la foi à recevoir la parole, il donne aussi son Saint-Esprit. Ça rentre. C'est ça qui te permet de naître de nouveau. Si t'as pas vécu cela, t'es pas né de nouveau. On regarde dans un verset dans Tite 3, 5 à 6. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. C'est ça que je disais au début de la réunion. C'est pas parce qu'on était des bons gars qu'on a fait bien des bonnes œuvres qu'il nous a sauvés. Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qui a été répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça nous dit qu'on a été sauvés, là. Ça veut dire qu'on est devenu un né de nouveau, là. On a été sauvés, Quand on a eu le baptême de la régénération, Louis II, il écrit baptême, mais ça ne veut pas dire le sens du mot baptême d'eau. Le mot qu'il y a là, ça aurait dû être lavage ou le bain. Prends le bain nuptial, là, un bain, la mariée, avant de s'habiller en robe, elle prend un bain, puis ça la lave, mais aussi ça la détend. Il y a un baignage qui se fait, c'est dans les coutumes du peuple juif, mais c'est lavage en même temps. Fait qu'on était sauvés par le lavage de la régénération. Ça veut dire, quand tu t'es ouvert à recevoir la parole de Dieu, tu crois que Jésus est mort sur la croix, puis tu saisis ça par la foi, il y a un lavage qui se fait. C'est comment ça s'appelle, en d'autres mots? Être pardonné de ses péchés, être lavé de ses péchés. Quand Dieu te pardonne, puis Dieu te lave de tes péchés, c'est que tu as passé au lavage. Fallait que, premièrement, que tu reçoives le lavage avant de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aurait pas pu rentrer dans toi si t'es pas un pardonné. Fallait que tu sois un pardonné. Puis pour être un pardonné, fallait que tu aies reçu la parole avec foi, en croyant que Jésus t'a mort sur la croix, qu'il a versé son sang, puis il est ressuscité. Tu crois que t'es pécheur, puis tu crois qu'il a accompli ce qu'il fallait, tu sais ça par la foi. Quand tu crois à cela, bien là, tu demandes pardon. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu fais une prière de repentance. Il n'y a pas de prière apprise par cœur qui est nécessaire. Tu t'exprimes dans tes mots, tu parles à Dieu, puis tu lui demandes de l'aide, puis il va te pardonner tes péchés, puis c'est là que tu es lavé, puis ça te régénère, ce que je vous disais tantôt. Puis le mot régénération qu'il y a là, c'est pas le même sens du mot que les autres, mais c'est presque pareil, mais il y a des petites nuances. La régénération qu'on reçoit à la nouvelle naissance, après avoir été pardonné, lavé de nos péchés, là, ça symbolise aussi l'idée de la nouvelle naissance, mais d'un renouvellement, une recréation, une régénération, mais une recréation. C'est comme si tu es recréé. Quand on dit que tu es une nouvelle créature, tu n'es pas juste nettoyé ou restauré. Mais ça a l'idée d'être restauré, mais il fallait que ça soit fait par Dieu comme une recréée. Vous allez voir dans les idées, là, ils s'étendent dans le dictionnaire biblique. On parle de rénovation, régénération, production d'une nouvelle vie consacrée à Dieu. Cette idée-là, quand tout à l'heure on disait que la mentalité a changé pour décider de commencer à obéir à Dieu, mais là ça va plus loin. C'est une nouvelle vie de consacré, d'une personne qui veut puis qui le fait. Un changement radical d'esprit pour le meilleur. C'est un peu, il y a des points qui ressemblent à l'autre mot, naître de nouveau, mais il y a une coche de plus. Le mot étant souvent utilisé pour dénoter la restauration d'une chose à son état d'origine. Ça nous dit que quand tu reçois le lavage, t'es restauré à ton état d'origine. À l'origine de quoi? Mais c'est pas à l'origine de ta naissance. C'est à l'origine comme Adam et Ève ont été créés avant que le péché rentre dans le monde. D'être à l'image de Dieu. Parce que là, tu vois qu'Adam et Ève ont perdu l'image de Dieu. Puis ils étaient à l'image de Dieu avant qu'ils pêchent. Mais après ça, ils ont créé des enfants à leur image. De déchu. Tandis que là, t'es à la nouvelle naissance, t'es comme restauré. Ça, je disais au début de la réunion, tu prends un vieux camion en métal tout rouillé, pour le restaurer, là, pour le remettre à son état d'origine, faut que tu le sandblastes tout, puis tu le repeintures pour qu'il soit comme il était flambant neuf. Mais Dieu, c'est ce qu'il fait avec nous quand on est de nouveau. Quand on commence notre nouvelle vie, on est des flambants neufs. Puis, ça nous dit deux affaires. Le lavage qui nous remet flambants neufs et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit, là, à partir du moment que tu es pardonné, là, il rentre dans ta vie, puis là, il te renouvelle. Ça, dans les études, un peu plus tard, on va parler c'est quoi ce renouvellement-là que le Saint-Esprit opère dans une personne. Faut qu'il change toutes tes pensées, faut qu'il change tes manières de parler, faut qu'il change ta manière de te comporter, faut qu'il change ton désir, tes buts, tes objectifs, tout doit être changé. T'arrives à Jésus, là, puis il faut pas dire au monde, essayez de changer puis d'être correct avant de rentrer à l'Église. Non, c'est pas de même que ça marche. Venez à l'Église comme vous êtes, recevez le Seigneur Jésus-Christ, il va vous pardonner, il va vous restaurer flambant neuf, il va vous donner le Saint-Esprit, puis lui, le Saint-Esprit, va vous conduire dans tout le renouvellement que vous allez avoir besoin à changer dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à aller, à méditer, à confesser des choses, à prier. Quand tu as le goût de prier, c'est le Saint-Esprit qui veut que tu pries. Puis si tu n'as pas le goût de prier, c'est parce que tu as attristé le Saint-Esprit à quelque part, parce qu'il est supposé de te le produire. Il veut nous pousser dans toute la vérité. C'est sa job. Mais quand tu l'as pu, c'est parce que là, il y a quelque chose qui bloque le Saint-Esprit. Mais si tu étais toujours dans l'Esprit, tu vas marcher par l'Esprit, tu vas avoir les fruits de l'Esprit.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Un changement complet vers le meilleur. C'est pour ça qu'une personne, quand tu l'as avoué, es-tu né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau, on devrait se poser la question, as-tu changé? Es-tu meilleur? Tu vois-tu qu'elle veut être meilleure pour Dieu? C'est ça qui démontre qu'elle est vraiment née de nouveau. Si ce n'est pas là, elle n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris dans les trois éléments. Il faut que tu comprennes le sacrifice de Jésus. Il faut que tu aies foi dans la parole de Dieu, puis que tu le reçoives, puis tu laisses le Saint-Esprit rentrer dans ta vie, que lui va faire le changement. Sans naître de l'Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Il faut que tu aies vécu les trois. Tu crois à ce que Jésus a fait, tu crois à la parole, tu la reçois, tu le confesses même, puis tu demandes le Saint-Esprit, puis c'est sûr que Dieu va le faire. À combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Tu le demandes, c'est parce que tu veux changer ça, tu veux un nouveau départ, il va te le donner. Dieu veut le donner. Il dit, si méchant comme vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants. Ton enfant dit, j'ai faim, tu lui donnes-tu un serpent? Tu lui donnes-tu un scorpion? Non, il a faim. Oh, le petit, il a faim, tiens, voilà une toast. Qu'est-ce que tu veux même, tu lui demandes? Tu veux lui faire, il dit, si méchant comme on est capable de donner de bonnes choses. À combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux, tellement qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qui est compatissant, il est rempli d'amour. À combien de fortes raisons il donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est ça que ça dit. Dieu veut que le monde naisse de nouveau et que le monde soit sauvé, mais il faut qu'il croit à ce que Jésus a fait, en ce que la parole a été annoncée par Jésus. Il faut qu'il y croie. Si tu dis, au moins pas moins de la Bible, je veux marcher dans ma... Mais là, il est en train de passer à côté... Premièrement, de naître de nouveau, mais on va voir que c'est important que même après avoir été de nouveau, tu restes dans l'amour de la parole de Dieu et de continuer à croire au sacrifice de Jésus et de continuer à demander d'être rempli du Saint-Esprit. On va voir que le renouvellement du Saint-Esprit, c'est un renouvellement qui est pas un... Le 20 novembre 1980, j'ai accepté le Seigneur, j'ai été renouvelé. Non, c'est pas ça, c'est correct, tu l'as vécu là, mais aujourd'hui, là, tu marches-tu dans le renouvellement que l'Esprit veut t'emmener? C'est un renouvellement jusqu'à la fin. Restons dans ce renouvellement-là, tu es dans le chemin du salut. Un dernier verset. Jésus dit, juste pour comprendre que juste croire ou juste lire la Bible, c'est pas suffisant. Jésus le dit à du monde qui a lisé la Bible dans ce temps-là. Il faut aller à Jésus pour avoir la vie. Faut que tu y croies, puis faut que tu y demandes au Seigneur de venir le faire, parce que tout passe par lui, ça, c'est la porte. Dans Jean 5, 39 et 40, c'est le dernier verset, il dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Oui, nous, on veut aller à toi, Seigneur, pour avoir la vie.
Amen.
On le sait que c'est grâce à Jésus, puis c'est lui qui est le centre de toute la Bible. Toutes les promesses des prophètes, ça annonce un Messie, puis on le sait que c'est Yeshua, le Messie. On croit en lui, puis on veut le suivre, puis on veut avoir la vie. Puis merci, Seigneur, pour cette vie qu'il nous a donnée. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations, pour la connaissance de ta parole. Merci pour cette nourriture spirituelle qui nous fortifie dans notre foi. Merci, Seigneur, d'avoir accompli le sacrifice qui était nécessaire pour qu'on puisse être pardonné. Merci, Seigneur, de ta parole qu'on a compris, qu'on a cru, qu'on a saisi par la foi, puis qu'on confesse de notre bouche. Merci pour aussi pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui nous renouvelle, qui nous change, puis qui nous amène à être de plus en plus comme Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais, puis on veut aller à toi et demeurer en toi jusqu'à la fin. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur. Amen.